Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce lundi, c'est un peu exceptionnel hein, puisque les conférences du lundi sont une exception chez nous, donc on vous remercie d'avoir fait une entorse, mais à hauteur exceptionnelle, rencontre exceptionnelle, puisque Joël Dicker est venu exprès pour nous de Genève, qu'il rejoindra demain pour une émission importante à la Vision Suisse Romande. Mais c'est un homme très demandé, et il faut dire que ce jeune homme de 27 ans est un des gros événements, on peut dire, de la rentrée littéraire de cette année. Il est arrivé après tout le monde. Le gros des livres nous était parvenu. Nous étions en train de digérer nos 650 romans. Et puis, un gros livre supplémentaire est arrivé. Un livre autour duquel des rumeurs bruissaient depuis quelques semaines. On nous avait très sérieusement invités à le lire. Et donc, cet été, nous avions sur nos tables un livre comme ça, qui ressemblait à des épreuves, et en nous disant, ce livre-là, on va beaucoup en parler. Eh bien, on en parle tellement que ce livre, à peine arrivé, est déjà très bien placé dans notre librairie et rencontre un énorme succès. On peut même dire tout à l'heure, quand Joël Dicker est entré dans la librairie, une dame était en train de l'acheter, elle lui a sauté dessus pour se le faire dédicacer. Voilà. Donc, la gloire est aux portes de cet auteur, et on est content qu'il soit là, puisque dans un mois, je pense qu'on en parlera encore plus. Voilà. Alors, ce livre, on nous en a parlé en disant c'est un gros livre, vous allez voir, les auteurs français sont assez réticents à écrire des gros livres, mais vous le lirez, et quand vous l'aurez commencé, on prend le pari, vous ne pourrez plus le lâcher. Voilà. Bon, on est toujours un peu, on a toujours des réticences quand on entend ce genre de choses, mais on s'est dit qu'on allait jouer le jeu. Alors, il fallait le définir, on nous a dit qu'est-ce que c'est ce livre. Selon les jours, on avait envie de dire c'est un roman psychologique, c'est un roman d'action, un roman noir, parfois même, certains, on peut dire c'est un roman policier. Bref, une sorte d'objet composite qui suscitait notre curiosité. Et effectivement, après la lecture de ce livre, on peut dire qu'on a le sentiment, non pas d'avoir lu un livre, mais peut-être plusieurs. En tout cas, on a pris un énorme plaisir avec ce livre, et je suis ravi que Joël Dicker soit là pour nous en parler. Nous allons lui poser des questions. Alors, le problème de ce livre, on peut le dire, c'est qu'il y a une intrigue policière, et donc, il faut faire très attention quand on en parle à ne pas dévoiler certaines choses. Donc, je suis quand même assez connu pour gaffer. Donc, vous me retenez si jamais je lâche le nom du coupable. Hein. Ceci dit, jusqu'au bout, on hésite, puisque ceux qui se sont arrêtés à la 400e page auront une vision du livre totalement infidèle, puisqu'il faut vraiment aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, c'est un livre à double fond. Moi, j'ai une habitude quand je lis des romans, fidèle à une logique d'un auteur argentin qui s'appelait Marcelino Fernandez, qui disait, voilà, au XXe siècle, il faut toujours lire les dernières pages d'un livre avant de le commencer. Ça nous évite de lire pour de mauvaises raisons. Voilà. Alors, j'ai commencé en lisant les dernières pages. Mais j'ai bien compris dans les dernières pages que j'étais condamné à revenir à la première pour essayer de comprendre et démêler cet écheveau assez incroyable et de personnages et d'actions. Alors, la première question, elle est assez banale, elle est simple. Vous avez 27 ans. En début d'année, on voit arriver ce livre, qui est le premier. 6 mois après, on en voit arriver un autre. Alors, quelle espèce de martien êtes-vous? Est-ce que vous allez nous produire donc 2 livres par an,
au moins.
Des choses comme ça. Qui êtes-vous? Voilà, c'est la première question, un peu banale.
Merci, bonjour d'abord, bonsoir. Merci de me recevoir ici. Je suis très touché de venir à Bordeaux, qui est une ville que je ne connais pas. Mais je suis très fier de pouvoir être là et je me trouve très chanceux de pouvoir être en face de vous pour vous parler de mon livre. Et je commencerai par ne pas répondre à votre question, mais pour juste revenir sur ce que vous disiez. Les lecteurs qui commencent leur livre par la fin, je fais partie de cela. Quand je lis un livre, je suis la méthode d'un homme qui m'était très cher, qui était, on parlera peut-être de lui, qui était un de mes vieux cousins qui habitait dans le Maine et qui avait une maison dans le Maine dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps et qui me disait, mais quand je lis un livre, moi, tu sais, je lis un petit peu le début, je lis un petit peu la fin, je lis un petit peu le milieu, et puis si j'aime, je lis le livre, et puis si je n'aime pas, un, je peux en parler quand même, et deux, je n'aurais pas perdu mon temps à lire tout le livre. Alors, ça énervait sa femme, parce qu'ensuite, quand on parlait à un dîner d'un livre ou un autre, il disait « Ah oui, bien sûr, ce livre, etc. » Et il en parlait comme s'il l'avait lu, alors qu'on savait qu'il avait lu soit le milieu, soit le début, soit la fin, ou un petit peu des trois. Et je fais partie des lecteurs qui commencent par lire la fin des livres. Et c'est pour ça, peut-être, qu'en lisant la fin du livre, vous n'aurez pas toute la teneur de l'intrigue, parce que je me suis dit « Mais si les gens font comme moi, et qui se contentent de lire la 670e page, personne ne va commencer par lire après la page 1. Alors je me suis dit qu'il fallait que la dernière page donne envie de lire quand même, mais sans révéler rien du livre, ce qui forcera quand même les gens, s'ils le veulent bien, à recommencer depuis le début, depuis la page 1. Pour répondre à votre question, je vous rassure, je n'écris pas un livre tous les 6 mois. Enfin, j'aimerais bien pouvoir écrire un livre tous les 6 mois. Je suis malheureusement pas assez doué pour ça. Il me faut beaucoup de temps. Et il se trouve simplement que la sortie de ces livres tient aux caprices de l'édition, au monde de l'édition. Et mon premier livre, Les derniers jours de nos pères, a été écrit, en fait, à peu près, a été fini. J'ai terminé de l'écrire 2 ans et demi avant qu'il ne sorte. Et j'ai essayé de le proposer à des éditeurs. Je l'ai envoyé un peu à gauche et à droite. Et puis, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui s'y intéressait suffisamment pour le sortir. Alors, je me suis remis au travail. Et je me suis remis à écrire un autre livre, qui est le livre qui est ce second livre. Je me suis dit, mais au fond, les livres, quand on écrit un livre, on prend quand même un risque assez important. On prend le risque que soit les gens ne l'aiment pas, soit les éditeurs ne l'aiment pas. On prend le risque, au fond, de se donner beaucoup de peine pour que le produit final, notre texte, soit un texte qui, au fond, n'allait pas beaucoup plus loin que notre chambre, notre bureau, notre cercle de proches. Alors, je me suis dit, un peu échaudé par l'expérience de ce premier livre, qui n'existait pas encore, je me suis dit, bon, il faut que le suivant soit en tout cas une source de plaisir pour toi, et soit une source de contentement, de défi, de contentement dans le bon sens du terme, de plaisir, soit un moment qui te rende heureux, qui soit un moment qui soit suffisamment important pour toi pour que même si par hasard personne ne voulait de ce livre, ça t'ait quand même apporté quelque chose à toi. Le livre ou le texte ne devenant donc plus un plaisir avec une espèce de vocation très généreuse et égocentrique qui aurait été de le tirer à des millions d'exemplaires, mais juste de dire, ben, au moins, voilà, au moins, même si juste ce texte m'a apporté du plaisir à moi, ça aura été déjà une aventure en soi qui en vaut suffisamment la peine pour s'y mettre maintenant. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire ce deuxième texte, La vérité sur l'affaire Harry Kébert, ou plutôt La vérité à propos de l'affaire Harry Kébert, car c'était son premier titre. Et puis, en cours d'écriture de ce livre, vous savez, quand on écrit, on a souvent beaucoup de doutes parce qu'on se dit, mais c'est sûrement très mauvais, et puis c'est trop gros, et puis ça n'intéressera personne, et puis ça, c'est pas drôle, ce qu'on pensait drôle ne l'est probablement pas, et quand c'est triste, c'est pas triste, etc. Donc on a beaucoup de doutes, et on a beaucoup de peine à trouver des gens qui seraient capables de nous dire si ça vaut la peine ou pas. Parce que soit ce sont vos proches qui vous disent de toute façon, ah, c'est très bien, ah, c'est formidable, ah, continue, etc. Soit ce sont des proches qui veulent votre bien par anticipation et qui vous disent, mais tu sais, écrire un livre, c'est bien, mais au fond, il y a des choses plus importantes. Il y a peut-être qu'un travail plus sérieux te permettrait de gagner ta vie. Alors, on dit, mais c'est sérieux. On dit, oui, mais tu comprends ce que je veux dire, etc. Donc, on se retrouve un peu dans une position qui est très pénible, qui est, mais au fond, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas? Surtout quand on est en train d'écrire un texte qu'on sent relativement long. Voilà, il y a beaucoup de doutes qui viennent. Alors, je me suis dit, à un moment donné, j'aurais besoin quand même d'un concours extérieur. Et j'ai saisi une opportunité qui était celle d'un concours à Genève, organisé par la Société des écrivains genevois, qui organise tous les 4 ans un prix du roman sur manuscrit uniquement. C'est-à-dire pour tous les écrivains, qu'ils soient confirmés ou non, mais uniquement des textes qui n'ont pas encore été édités. Et donc, je me suis dit, bon, je vais envoyer le manuscrit des derniers jours de nos pères à ce concours, de sorte à ce que, comme ça, au moins, je sais que des gens d'un avis très honnête et critique et complètement neutre liront ce texte. Et puis ensuite, je pourrais leur demander, mais vraiment, vous savez, je suis sur un autre livre, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine, etc. À mon grand étonnement, les jurys du prix ont lu ce texte, l'ont aimé et lui ont donné le premier prix. Alors évidemment, là, je me suis dit, mais oh, mon Dieu, mais c'était pas du tout. Les choses n'étaient pas censées du tout se passer comme ça. Et non seulement ça ne devait pas se passer comme ça, mais en plus de ça, ayant eu le premier prix, j'ai été contacté par un monsieur qui s'appelait Vladimir Dimitrievitch, qui était le directeur des éditions de l'Âge d'Homme à Lausanne, monsieur très important de l'édition suisse et même en Europe, et qui me téléphone et qui me dit « Ah, c'est Dimitrievitch, bonjour, j'ai lu votre livre, c'est très bien, j'aimerais le faire. » Enfin, il était comme ça, très amusant. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que Les derniers jours de nos pères, qui au début était condamné, en tout cas je pensais, à rester dans le tiroir de mon petit bureau, du jour au lendemain, a trouvé un éditeur intéressé. Et Vladimir Dmitrievitch me disait, mais au fond, vous savez, c'est un texte, c'est une histoire qui raconte comment les Anglais sont intervenus pour former un petit peu la résistance en France en 39 et 45. Et il me disait, mais vous savez, c'est un sujet qui pourrait intéresser les Français, etc. Et puis, Vladimir Dmitrievitch a parlé de ce texte à son ami Bernard de Fallois et pour lui proposer de faire une coédition. Malheureusement, Dimitri n'a pas vu ce texte parce qu'il est décédé au mois de juin, en juin 2011. Mais sous la direction de Bernard de Fallois, ce livre, pour mon plus grand plaisir, est finalement sorti en janvier 2012, les derniers jours de nos pères. Mais évidemment, le temps avait passé. 2 ans à peu près s'étaient écoulés entre la fin de l'écriture des derniers jours de nos pères et par toutes ces aventures, la sortie du livre. Et j'étais sur le point de terminer, où j'avais déjà passablement avancé, l'écriture de mon second livre, La vérité à propos de l'affaire Harry Kéber. Et c'est comme ça qu'au mois de mai, je l'ai terminé et je me suis dit, bon, ben voilà une bonne chose de faite. En même temps, je me disais, voilà, mon premier livre est sorti au mois de janvier. J'étais en fin de contrat pour mon travail à Genève. Je travaillais à l'Assemblée constituante. Je me disais, bon, ben, je vais pas avant janvier 2013. Un livre par an, c'est très bien. Puis comme ça, j'aurai le temps d'en écrire un autre. Et puis j'aurai des réserves, ça sera très bien, etc. Et puis, c'était sans compter sur Bernard de Fallois, qui a lu le manuscrit, qui l'a beaucoup aimé, et qui m'a dit, mais non, il faut le faire tout de suite, etc. Alors, j'étais inquiet d'abord, parce que je me disais, mais comment est-ce qu'on peut le faire si vite ? C'était le mois de juin, j'avais un peu peur que, voilà, que 640 titres, 650 titres qui sortent tous les mois de septembre, j'avais peur que ce livre soit un peu noyé sous tous les autres titres. Et puis, j'ai eu la chance et j'ai été soutenu et épaulé très fidèlement et de façon assez incroyable par toute l'équipe des éditions de Fallois. Et c'est comme ça que ce livre, qui vient de naître, mais connaît un chemin très agréable. Et donc, ceci explique aussi comment 2 livres sont sortis en 6 mois. Donc, pas par le hasard ou la magie d'une profusion comme ça de mon esprit, mais simplement parce que 2 ans et demi, en fait, se sont écoulés entre l'écriture du premier et l'écriture du second.
Alors, le premier, c'était presque une sorte de roman d'espionnage, on peut dire. Et le deuxième, alors, parce que c'est vrai que c'est un nouveau-né. Hein, il est sorti il y a peut-être même pas 2 semaines, 3 semaines à peine. Hein, donc, c'est vraiment un nouveau-né. On entend dire, alors, et vous le dites vous-même, je pense que vous vous revendiquez, c'est une sorte de roman américain. Une sorte de roman américain écrit par un Français. Enfin, sauf que vous êtes Suisse. Donc, un roman américain écrit en français par un Suisse. Alors, déjà, on serait tenté de dire cette fameuse question, pourquoi l'Amérique et pourquoi pas les verts pâturages de la Suisse, riante, si chère à Ramuse. Pourquoi avoir choisi l'Amérique? Et est-ce que, au bout du compte, c'était pas au départ un défi, une sorte de défi de se dire, dans cette littérature française, un petit timoré qui rechigne toujours à se lancer dans les grandes aventures, etc. Est-ce que je peux, moi, jeune écrivain, courir le risque de me dire je vais faire ce que personne ne veut faire, c'est-à-dire écrire un roman comme les Américains ?
Mais je ne sais plus très bien la réponse à la question est-ce que c'est un roman américain ? Et en fait, je crois que la réponse est non, dans la mesure où je suis en train de terminer le nouveau livre de Roth, Philip Roth, Nemesis, et en le lisant, je me suis dit mais... Au fond, c'est fou parce que ce livre, enfin, c'est fou, non, mais au fond, j'ai compris que ce livre-là était un véritable roman français ou de littérature française. Je ne sais pas très bien comment le dire, mais il y a évidemment cet américain parce que ça se passe aux États-Unis, cet américain parce que les personnages du livre sont des Américains et cet américain parce qu'on les voit vivre et évoluer dans leur élément, c'est-à-dire c'est un regard d'Américains entre eux. Et ce n'est pas une espèce de mission exploratrice d'un Français aux États-Unis. Donc en ça, c'est un roman sur les États-Unis. Mais ce n'est pas de la littérature américaine. Et je le sens bien quand je lis du Roth. Et je l'ai bien senti en lisant ce nouveau livre de Roth. Les Américains ont une littérature qui est la leur, parce qu'elle est écrite en anglais et que c'est comme ça. Et les Français ont une littérature, ou les francophones ont une littérature qui est la leur. Et ce roman-là est un roman français, c'est-à-dire un roman de littérature française à part entière. Mais c'est un roman qui, effectivement, se situe dans une ambiance, dans une atmosphère.
Et qui se sert un peu de l'imaginaire américain.
Et qui se sert un peu de l'imaginaire américain. C'est vrai, voilà. sur ce plan-là, c'est vrai. L'idée m'est venue parce que j'avais passablement envie de raconter une région, comme je vous le disais avant, qui m'est très chère, qui est la région du Maine, du New Hampshire, du Vermont, que je connais bien parce que j'y ai passé et j'y passe plus ou moins toujours environ un mois par année. Et c'est une région dans laquelle j'ai en beaucoup de guillemets grandi parce que en y allant un mois par an en vacances avec mes parents, mes frères et sœurs, dans cette maison de famille, au fond, j'ai grandi à Genève et puis chaque année, j'ai aussi un petit peu grandi dans cette région-là. Et quand je dis grandi, ça veut dire que on commence à avoir un regard qui change. On voit les choses de façon différente parce qu'on a 7, 8, 9 ans, et puis 10 ans, et puis 15 ans, et puis 20 ans. Puis ce sont des étapes de la vie pendant lesquelles on se pose évidemment des tas de questions. Et ces questions se répercutent ensuite sur le biotope dans lequel on se trouve. Et en étant aux États-Unis comme ça, dans le même endroit, de façon si intense, certes peu à la fois, un mois c'est rien, mais de façon si régulière, ça m'a permis de me poser des tas de questions sur les Américains, d'apporter des réponses, enfin mes réponses, et puis ça m'a donné très envie de raconter une fois ou l'autre un livre qui se passerait là. Mon premier livre, Les derniers jours de nos pères, aurait dû originellement se dérouler aussi aux États-Unis, preuve que j'avais vraiment envie de pouvoir au moins explorer une fois ce terreau-là. Et puis, je suis tombé, en fait, j'avais commencé sur une histoire qui était autre, où il y aurait un journaliste anglais qui serait envoyé aux États-Unis. Et puis, je suis tombé sur le SOE, qui est ce service anglais, qui m'a donné très envie de m'y pencher plus. Et donc, finalement, le livre s'est uniquement concentré sur le SOE. Mais il y avait eu déjà cette idée, cette volonté de parler ou de raconter une histoire qui se passerait là. Et puis, quand j'ai commencé ce second livre, je me suis dit, comme je me disais, il faut que je m'amuse, il faut que ce soit un livre qui me plaise. Je me suis aussi dit, mais peut-être bien que c'est le dernier livre que tu feras ou que tu feras avant un bon bout de temps, parce que si personne n'en veut, si ce livre n'existe pas ailleurs que dans ton tiroir, ben voilà, tu vas rentrer aussi, il va falloir faire autre chose, il va falloir travailler. Enfin, il y avait des tas de choses qui me semblaient devoir faire. Et je me suis dit, bon, ben, si c'est le dernier livre avant un bout de temps, autant faire de ce livre pour toi un grand moment de plaisir et y mettre en tout cas tout ce qui te tient à cœur vraiment. Alors je me suis dit que ce serait dommage de rater une occasion que j'avais, qui était là la dernière pour moi avant un bon bout de temps, de pouvoir parler de cette région qui m'est chère. Et c'est pour ça que j'ai commencé à placer ce roman, ou que j'ai placé, et c'est la seule chose que je savais, j'ai placé ce roman sur la côte Est. Puis ensuite est venue toute la question de se dire, mais comment est-ce qu'on écrit un roman qui se passe sur la côte Est en français ? Je me suis d'abord demandé si ça devait être une aventure de Français qui débarquent aux États-Unis. Et en fait, ça ne jouait pas parce que je n'avais pas du tout envie d'être un explorateur aux États-Unis qui a un regard un peu étrange comme ça sur ce pays et qui se demande mais qu'est-ce qui se passe, qui sont-ils, qui sont ces gens étranges. J'avais vraiment envie de raconter une Amérique de l'intérieur parce que j'avais l'impression de la connaître de l'intérieur aussi. Et donc, je me suis dit, bon, ça pourrait être des personnages d'origine française, etc. Ça ne marchait pas très bien. Et ça n'a finalement fonctionné, en tout cas selon moi, que lorsque j'ai passé le pas de me dire, ben, c'est un roman français, de littérature française, écrit en français, mais qui raconte de l'intérieur une histoire qui n'a pas trait avec la France, mais une histoire d'Américains en Amérique et leurs aventures. Et c'est comme ça que ce roman s'est créé, et c'est comme ça que les personnages qui étaient déjà plus ou moins là dans leur fonction, Marcus, Harry et tous les autres étaient présents, mais leur identité n'était pas claire. Et une fois qu'elle est devenue claire, alors j'ai vraiment pu me lancer dans le récit comme j'avais envie de le faire.
Alors, c'est un roman, mais comme ça apparaît souvent dans les films, on le voit dans les films, les cinéastes sont fascinés par les écrivains. Les protagonistes principaux sont des écrivains. Voilà. Alors vous êtes un jeune écrivain et vous vous intéressez à un jeune écrivain, avec la tentation chez le lecteur de se dire « ça pourrait être un double ». Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi précisément un écrivain pour enquêter sur... Alors, il faut qu'on parle un peu de l'histoire quand même. Hein. Harry Quebert est donc le... Est-ce que c'est pas le héros du livre, en fait, Harry Quebert? On pourrait dire que c'est... Est-ce que c'est le héros ou est-ce que c'est le sujet du livre?
C'est le sujet du livre.
C'est le sujet. Ouais. Voilà. Le protagoniste, c'est vraiment Marcus Goldman, qui a un nom. Alors déjà, pourquoi... Alors le nom, déjà, est-ce que... D'où vient ce nom-là? C'est une question un peu anodine, mais Goldman, enfin, je sais pas, mettre de l'or dans un nom, enfin, un homme d'or, est-ce que c'est totalement anodin? Du moment où vous avez posé la question pour Aurora, ouais. Est-ce que c'est... Ou alors, est-ce que c'est votre inconscient qui a joué à fond en vous disant que l'homme d'or ferait votre fortune?
Non, pas du tout, c'est amusant. Non, pas du tout. Les noms sont venus... c'est-à-dire, il faut trouver des noms qui aillent aux gens, des gens qui vont avec leurs noms, et donc on affine les gens, on commence par avoir une idée des gens, et ensuite on leur donne un prénom ou un nom. Et des fois, leur nom, et le meilleur exemple que j'ai pour ça est un des personnages qui est un inspecteur qui s'appelle Perry Gallowood, qui a un nom absolument très imprononçable, avec 3 A, 2 O, etc. On ne sait pas très bien ce que c'est que ce nom-là. Et c'est un personnage qui est, de prime abord, assez brusque. Pas très agréable, grognon, pas très sympa. Et puis, en fait, quand on le connaît mieux, c'est un personnage assez simple, très amical, très simple, qui a des valeurs comme ça, très terre-à-terre, mais qui est très sympa comme ça. Et donc, je trouvais que c'était important d'avoir un type qui avait un nom de famille, qui est la première chose qu'on connaissait des gens, Monsieur Gallowood ou Inspecteur Gallowood, un peu comme ça, long, lourd et branlant. Et quand on l'appelle par son prénom, c'est très simple, c'est Perry. C'est un prénom très simple et un peu de base. Et c'est la même chose pour tous ces personnages-là qui ont un prénom qui est un prénom qui se construit un peu autour d'eux. Mais sans...
Sauf que Quebert, enfin, par exemple, je ne savais pas comment on disait Quebert.
Hein, voilà.
Qui fait très français aussi, quand même.
Qui et fait français, mais les Américains, et tout ce côté-là, il y a un grand pourcentage de gens qui parlent le français dans le Vermont, par exemple. C'est une région qui est très proche du Cap-Québec. Ils ont une histoire aussi tout à fait liée avec les Français. Ils ont une histoire d'immigrés aussi très importante.
Alors, ce Harry Quebert, c'est un peu le cœur du livre, puisque cet homme, on va le découvrir petit à petit... est un grand écrivain. Donc on commence en disant c'est un grand écrivain. Donc vous plantez la figure du type qui a vraiment réussi. Et pour vous, le grand écrivain, c'est quelqu'un qui non seulement fait des bons livres, mais connaît le succès, hein, ce qui peut être une différence avec les Français, où on peut être un grand écrivain et n'être lu par personne. Donc un grand écrivain qui connaît le succès, qui est reconnu, et qui a pour disciple, on peut dire, un jeune homme qui s'appelle Marcus Goldman. Et l'histoire va commencer quand, tout d'un coup, le passé va ressurgir violemment dans le présent de ce garçon. Harry Quebert est inculpé pour un crime qu'il aurait commis 30 ans plus tôt. Alors, vous avez choisi de faire de Marcus Goldman un écrivain, une sorte d'enquêteur, en quelque sorte. Est-ce que la vocation d'enquêteur de Marcus Goldman était ancrée chez vous dès le début du livre, ou est-ce que petit à petit, ça s'est insinué comme ça? Est-ce que vous vous êtes dit d'entrée, je vais essayer de faire résoudre à quelqu'un qui n'est pas de la police, etc., une enquête qui serait de l'ordre de l'ordre policière?
Oui, parce qu'il y avait l'envie d'une enquête. Et il y avait déjà des idées sur l'enquête, mais il y avait le grand problème de se dire, mais au fond, comment est-ce qu'on organise une enquête et comment est-ce qu'on met en place une enquête quand soi-même, on ne connaît rien à ça?
Il est assez naïf, quand même. Il dit souvent des choses un peu énormes. Enfin,
il est assez naïf, mais là, il est assez naïf, comme je crois qu'on pourrait l'être quand on a une enquête à résoudre ou quand on a des questions qu'on se pose et auxquelles on doit absolument trouver une réponse, mais qu'on n'est soi-même pas formé à l'enquête. Et je crois que c'était important parce que ça racontait bien l'histoire d'un maître et d'un élève. Harry était le professeur de Marcus, et il y avait cette histoire-là qui était très importante. Et il y a tout ce regard que Marcus porte sur son maître. Donc il y a la vérité sur l'affaire Harry Quebert. Cette affaire, c'est évidemment le meurtre d'une jeune fille dont est accusé Harry Quebert. Et l'enquête que mène ensuite Marcus, qui aimerait bien innocenter, qui croit en fait profondément à l'innocence de Harry Quebert. Et puis ce serait aussi la vérité sur Harry Quebert, parce qu'il y a aussi la recherche du disciple sur son maître, la découverte de qui est son maître, la découverte, voilà, comme on fait tous une découverte de gens qu'on croit connaître. On a tous des gens qu'on connaît très bien et dont on apprend parfois des choses à leur sujet qui nous étonnent et dont on aimerait bien en savoir plus. Et c'est pour ça qu'il fallait comme ça un personnage qui soit quelqu'un qui n'ait pas l'habitude de ce que ça veut dire, de découvrir des choses, aussi bien sur ses proches que sur quelque chose de beaucoup plus large comme cette affaire. Et puis ça permettait aussi quelque chose qui était important pour moi, qui était de permettre au lecteur de vivre ce livre pleinement, c'est-à-dire de vivre l'enquête comme la vit Marcus, puisque le lecteur, en principe aussi, n'est pas un initié des enquêtes. Et c'est une enquête que Marcus vit un petit peu comme le lecteur pourrait la vivre, je crois. C'était un peu le but. Ça aurait été moins amusant, ne serait-ce que pour moi, moins amusant d'écrire ce livre si Marcus était un fin limier, policier aguerri, qui, par des méthodes dont on ne comprendrait rien, arrivait à mettre le doigt sur ci ou sur ça et comprendre la chose. C'est pour ça qu'il n'y a presque pas de recours, ou très peu, à des éléments scientifiques.
Qui sont très à la mode actuellement, on a l'impression que n'importe qui manie ce vocabulaire.
En tout cas, moi, en tant que lecteur, ou en tant que... je ne comprends rien à ça, et je me voyais mal écrire un livre avec des éléments que je ne comprenais pas. Et c'est frustrant, au fond, d'avoir tout d'un coup un type qui vous dit « Ah, mais cette capsule, attendez, je l'envoie là-bas. » Elle revient et dit « Oui, c'est lui le meurtrier. » On n'a rien compris, ce n'est pas amusant du tout. C'était beaucoup plus drôle que Marcus la prenne en main et aille se promener, aille dans les magasins de bouteilles, aille trouver à qui était cette capsule, et essayer de trouver qui avait pu acheter une bouteille, enfin, essayer ça. Et donc, il y avait vraiment envie, voilà, de permettre au lecteur aussi de s'identifier, vraiment.
Mais vous aviez, il y avait quand même, c'est une quête de vérité. C'est le fait que le titre soit ça, c'est aussi quelqu'un qui est en quête de la vérité. On a aussi le sentiment que c'est un livre sur la perte de l'innocence. Alors, le personnage, Marcus Goldman, est un jeune homme qui a connu, on découvre ça dans le livre dès le début, il a connu un succès foudroyant, on le reconnaîtrait presque dans la rue, pas encore tout à fait, mais c'est un écrivain à succès dès son premier livre, comme si tout d'un coup l'innocence lui était interdite, et puis il n'arrive plus à écrire. Est-ce que vous n'avez pas bâti entièrement un livre sur le fait que cet homme, ce jeune homme, va petit à petit perdre son innocence au contact du réel, c'est-à-dire en étant au contact du réel et non plus au contact de l'écriture, qui est somme toute ce qu'il habite particulièrement?
Oui, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est aussi un roman sur l'apprentissage non seulement de l'écriture, mais de la vie aussi, pour ce Marcus, dont on le découvre jeune homme, très jeune homme, étudiant, et puis à la fin, jeune adulte et écrivain. Et c'est vrai qu'il tombe de haut, il tombe de haut en découvrant un peu qui sont les gens, ce qu'est la vie. Il a une idée de la vie qui est une idée très simple.
Mais il est quand même... Alors, il faut dire aussi qu'on va découvrir petit à petit son enfance. Enfin, le livre est fait en permanence d'aller-retour temporel, hein, qui donne un tournis assez incroyable, qui fait qu'on est retenu par ça. On découvre aussi que lui-même n'est pas si innocent que ça, puisqu'on l'a appelé le formidable toute son adolescence, et qui a chez lui un sentiment d'imposture. Sentiment que on le considère comme un type exemplaire, un type sur lequel on met même une plaque à l'école avec sa photo, mais que lui n'est pas exemplaire. Mm-hmm. Que somme toute, c'est la littérature qui va lui permettre de gagner cette exemplarité qu'il n'a pas au réel et que lui sait. Enfin, et que donc, il n'est pas si innocent que ça, finalement.
Oui, c'est vrai. C'est une question de vérité, parce que, sans en dire trop, on l'appelle le formidable quand il est au lycée, parce qu'il a des bonnes notes, il fait des exploits sportifs absolument exceptionnels, il est quelqu'un de génial, tout le monde le trouve génial, etc. Mais en fait, le lecteur se rend compte et comprend assez vite que toutes ses réussites ne sont dues qu'à des faux-semblants créés par lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il s'arrange pour qu'on pense que c'est le meilleur, mais en fait, à chaque fois, ce sont des truchements. J'en dis pas trop pour pas vous couper la surprise. Mais donc, c'est vrai que toute sa vie, au fond, jusqu'à sa rencontre avec Harry Kéber, il va réussir comme ça à passer toujours pour quelqu'un de très bien, mais sans avoir rien fait pour. Et puis, tout d'un coup, il se retrouve avec les livres. Son ambition est d'être écrivain. Et puis, il a un type qui lui dit, mais au fond, c'est Harry donc, qui lui dit, mais au fond, si tu ne travailles pas, tu n'arriveras à rien dans la vie. Et tu ne seras jamais quelqu'un si tu ne deviens pas quelqu'un par toi-même, à force d'être toujours en train de jouer de faux-semblants et de trucs pour passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour Marcus, c'est la première fois où il se rend compte ce que c'est que la vie, ce que c'est que la vérité, qu'il y a les faux-semblants, mais dont au fond, on ne se sent jamais tellement grandi. Et puis, il y a la vérité sur soi, donc quand on accepte d'être qui l'on est, on vit quand même déjà mieux.
Mais il y a un postulat assez étrange, et très tôt dans le livre, qui est, alors vous allez nous en parler, parce que c'est quand même un des éléments moteurs, qui est une sorte de quête d'absolu aussi, qui est que ce garçon, il a fait un best-seller, mais ce qu'il veut faire, j'ai même noté la phrase, moi aussi je voulais écrire un chef-d'œuvre, moi aussi je voulais écrire un livre qui deviendrait une référence. C'est-à-dire, ce garçon, il est mordu de littérature, mais il n'est pas simplement mordu, il a un souci d'être tout de suite au sommet, comme un sportif qui voudrait accéder à la plus haute main. Pourquoi avoir choisi justement quelqu'un qui a cette quête d'absolu là? Pourquoi il aurait pu être un écrivain en disant je vais faire mes armes, etc. Il y aurait une autre vision. Peut-être qu'en France, on dirait au bout de 3-4 romans, on peut commencer à être quelqu'un. Lui, c'est je vais devenir ami avec Harry Kéber, qui est un auteur de chef-d'œuvre, et je veux faire comme lui.
Oui, parce qu'il représente là, je crois, en tout cas pour moi, la fougue de la jeunesse et parfois ce côté en vouloir toujours plus, ne jamais être content. C'est le poisson d'or, vous savez, où on veut toujours plus. Mais ça, je pourrais être encore plus grand, je pourrais être encore plus ci, je pourrais être plus ça. Et il a ce côté où il n'est jamais content de ce qu'il a. Il écrit un livre qui se vend très bien Et puis il se dit, oui, non, mais moi, ça ne me suffit pas parce qu'on me dit que c'est un livre qui est facile, etc. J'aimerais faire un livre dont tout le monde dise ça, c'est le plus grand livre jamais écrit. Mais c'est un type qui ne sera jamais content parce que même s'il a le plus grand des prix, il voudra faire encore mieux que ça. C'est même impossible. C'est toujours une espèce de schéma d'être toujours, d'avoir toujours plus que ce qu'on a. Et c'est vrai que dans le début du livre, et c'est ce qui se passe, donc quand il dit, mais je vais écrire un grand roman et que... Harry Kéber lui dit mais c'est quoi un grand roman, de quoi tu me parles, etc. On est là dans la position de Marcus, qui est quelqu'un qui a des attentes tellement grandes par rapport à la vie qu'il en oublie au fond ce que sont pour lui les valeurs de la vie. Bon, alors chacun évidemment ensuite a des valeurs qui sont siennes, mais pour Marcus au fond les valeurs de la vie, et justement de ne pas en dire trop, mais ce sont des valeurs au fond très simples, ce sont des valeurs sur l'amitié, sur l'amour, sur le bonheur, des choses terre à terre peut-être, ou presque kitsch quand on les dit comme ça, mais qui au fond sont des bonheurs très simples, des plaisirs très simples de la vie, dont il a réussi à se distancier complètement par son espèce de quête, à vouloir absolument être le numéro un, le plus grand des grands, etc.
Mais c'est pas un intellectuel, en fait. On a le sentiment que ce n'est pas vraiment un intellectuel.
C'est pas un intellectuel, mais...
Enfin, on n'imagine pas dans le quartier latin à Paris, vous voyez. Somme toute, il n'y a pas de scène, ouais. Me semble-t-il, où, à part Harry Kéber, il est en contact avec d'autres écrivains.
C'est vrai.
Il ne parle pas de littérature. C'est pas un intellectuel de la littérature. Il a une très haute vision de la littérature, mais il ne parle pas de littérature. Il parle plus de boxe,
c'est vrai. Bon, mais alors en même temps, après, on peut se demander qui sont les intellectuels ou comment sont vécus les intellectuels aux États-Unis.
C'est peut-être pas, oui, on n'a pas le même rapport.
Hein, Il n'existe pas un équivalent de Saint-Germain-des-Prés aux États-Unis, ni à New York, ni à Boston, ni nulle part, parce qu'il y a une approche qui est complètement différente. Il y a une approche même du livre qui est très différente. La pensée américaine est une pensée tellement différente. Mais c'est intéressant ce que vous dites. En y réfléchissant et en y répondant comme ça, de façon très, très directe, j'aurais pas vu... où j'aurais de la peine à concevoir un milieu intellectuel américain, comme je vous disais, tel qu'on le verrait ici en France. Mais c'est en tout cas l'idée de Marcus, et quand on parle de boxe, c'est aussi parce qu'il y a un rapport au livre qui est aussi tout le temps, enfin en tout cas tout le long du livre, comparé au rapport entre les livres et la vie, et entre lui et la vie. Et il n'arrive au fond à commencer à écrire des livres, parce qu'au début il écrit déjà, etc., mais il s'arrange avant tout, sa préoccupation numéro un, c'est de faire en sorte que les nouvelles qu'il écrit soient le plus possible mises en avant dans la revue qui les sort. Et il ne se dit pas « je vais écrire mieux », il se dit « il faut que je trouve un moyen de... »
Pour être en tête, vie, pour être sur la première page.
Ouais. Parce qu'il a passé toute sa vie à essayer de réussir par des truchements, au fond. Et ce qui se passe, c'est que quand Harry Kéber commence à lui dire « mais au fond, tu n'es rien », parce que tu ne fais que mentir sur qui tu es, c'est qu'à ce moment-là, quand il arrive à être honnête par rapport à lui, qu'il arrive à être honnête par rapport à son écriture.
Alors, on en reviendra peut-être après, mais c'est vrai que je parlais de littérature, il ne parle jamais d'un auteur qu'il aime, par exemple. On pourrait s'attendre, enfin, ou alors j'ai pas de souvenir qu'il puisse se donner des références. Est-ce parce que Harry Kéber est lui-même un personnage imaginaire que vous n'avez pas voulu mélanger l'imaginaire de ce romancier qui n'existe pas, avec des romanciers qui existent?
Oui, absolument.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que de pas mélanger.
Harry Kéber est un écrivain connu et très connu aux États-Unis. C'est très dangereux de commencer à mêler le vrai et le faux. Parce que... ou alors, il faut être vraiment très fort, ce que je ne suis pas. Parce qu'il faut vraiment être capable, pour le lecteur, de comprendre le monde que vous lui offrez, et en même temps d'être capable aussi de mettre en parallèle, enfin, à vous, quand vous écrivez, d'être capable d'être... de mettre en parallèle à la fois votre monde et à la fois un monde qui existe vraiment. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile. Je l'ai lu, en fait, dans Roth, dans le dernier Roth, et c'est absolument incroyable. Le talent qu'il a. Il écrit un livre qui se passe à Newark dans les années 40, pendant la guerre.
Donc vous parlez, Newark, c'est votre...
Newark, hein,
c'est pas, moi, je parle anodin,
Newark,
j'imagine, si
je parle de Newark uniquement parce que c'est la ville où Roth est né. Et Roth, qui est un homme que j'admire... je me suis dit, le berceau des lettres pour moi aux États-Unis, c'est Newark parce qu'il y est né. Et donc, c'est un clin d'œil. En y faisant naître aussi mon personnage de Marcus. Mais il ne se passe rien du tout à Newark, parce qu'évidemment, Newark est la ville sacrée de Roth. Mais Roth, dans son livre, écrit un truc complètement fou, parce qu'il a passé toute sa vie, plus ou moins, à écrire des faits qui se sont passées aux États-Unis. Et là, il écrit un livre où il raconte comment Newark, et c'est inventé évidemment, comment Newark se retrouve frappé par une épidémie de polio en 1940. Et j'ai commencé le livre et je me suis dit, c'est très mauvais, ça va pas du tout, parce que Roth, justement, moi je l'aime, parce que quand on lit ses livres, on est aussi dans une époque américaine qui a existé vraiment. Même si ces personnages sont fictifs, on est toujours emmené dans un monde avec des interactions ou des faits historiques qui sont des faits qui sont vrais, qui sont là. Donc on est dans un monde qu'on maîtrise. Et puis je me dis, mais là, ça va pas du tout, qu'est-ce que cette histoire? Il parle d'une épidémie de polio terrible qui ravage New York, mais qui a jamais existé. Et donc j'ai commencé par être très fâché avec lui, à me dire, ça va pas du tout. Et en fait, en 10 pages, vous vous rendez compte, et c'est complètement fou, parce que vous savez que c'est faux. Et donc vous avez déjà compris, et donc vous n'intégrez pas tellement cette histoire de polio, mais il raconte tout ça, il raconte sa ville tellement bien, et c'est tellement juste par rapport à comment ça aurait pu se passer, que vous arrivez de nouveau dans ce qui fait tellement bien, vous êtes de nouveau dans une histoire des États-Unis. Et c'est complètement fou, parce que s'il y avait eu une épidémie de polio à Newark en 1940, il se serait passé exactement ça. C'est un livre d'histoire avant l'histoire, parce qu'il peut s'en passer une, évidemment, il n'y aura plus vraiment de polio maintenant, mais c'est complètement fou. Et lui, qui est un génie absolu, arrive comme ça à prendre deux mondes qui sont différents et à les mettre ensemble, et le lecteur comprend exactement où il est du début à la fin. Tout ça pour vous dire que, en ce qui me concerne, j'aurais jamais pu mettre des références avec ce Harry Kéber qui n'existait pas, parce que ça aurait été vraiment quasiment pour sûr une perte du lecteur qui aurait plus très bien compris à un moment donné quels sont les repères que je donne qui sont les miens parce que je les invente et quels sont ceux qui sont vraiment là.
Pourtant, on a envie d'imaginer Henri Kéber un écrivain qui a existé. Enfin, on est tenté en permanence de se dire, vous avez pensé à un tel ou un tel, mais c'est sans doute pas le cas. Enfin,
c'est pas tellement le cas.
Non, c'est pas le cas, mais bon, on a envie qu'il existe. Alors, il y a une particularité dans votre livre, il y a un vrai coup de génie dans votre livre, qui est ces fameux 31 conseils. Ce compte à rebours, assez surprenant quand on commence le livre, commencer par le chapitre 31 et puis aller en décroissant, on se demande ce qui s'est passé, qui est vraiment la ponctuation du livre, cette façon de dire tout d'un coup en une page et demie, j'arrête l'action et je pose quelque chose, voilà, qui sont les conseils au lecteur. Donc est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez imaginé dans le flot du texte, ou alors c'est quelque chose qui est venu après, qui est venu comme des respirations intelligentes? Parce que je trouve que ça organise remarquablement le livre et que ça, petit à petit, ça nous donne des indices sans nous en donner, sans rien nous dire. Mais moi, j'ai dû le relire, enfin, je suis revenu en arrière, on se rend compte que certaines choses qui étaient dites là étaient annonciatrices d'éléments qu'on allait voir après. Mmh. Comment vous avez... D'où vient cette sorte d'idée-là?
Alors, les textes en eux-mêmes étaient plus ou moins dans le livre pour une grande partie, à des endroits du livre. J'ai décidé d'en faire des têtes de chapitre lorsqu'il a fallu trouver une manière quand même de séparer les parties du livre entre elles, de donner un rythme au livre. Alors, je ne sais pas très bien au début, je me suis dit quand même un livre de 600 pages, mais est-ce qu'il doit y avoir des chapitres et combien? Et ce n'était pas très clair. Et quand j'ai trouvé et que j'ai compris que je voulais faire des chapitres plus ou moins assez équitablement répartis, parce qu'il y a 30 chapitres sur 600 pages, donc ça fait une vingtaine de pages. Donc les chapitres sont plus ou moins égaux. Je me suis dit, ce serait le moment d'y intégrer aussi un rythme, et dans ce rythme, intégrer ces conseils que j'ai ressortis au fond du texte pour les remettre dans l'ordre parmi les chapitres.
Alors qu'il formerait presque un petit livre à eux seuls, hein, qui serait des conseils aux jeunes écrivains par un écrivain ancien, ce qui est étonnant de votre part, que vous vous êtes mis dans la peau d'un vieil écrivain qui donne des conseils. Alors, c'est une sorte, quand on les lit comme ça à la suite, ça donne, c'est vraiment une impression très étrange. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'Harry Kéber et Marcus Goldman ont un lien aussi par le sport, mm-hmm. puisque Harry Kéber a été en quelque sorte l'entraîneur à la boxe universitaire de Marcus Goldman, donc chez qui il a détecté une certaine lâcheté et chez qui il va tenter de réveiller en quelque sorte une virilité qui pourrait être aussi une virilité littéraire, entre guillemets. Et donc, tout au long de ces petits conseils, de ces pages, on voit apparaître des phrases qui pourraient être extraites comme ça, et notamment beaucoup qui sont des métaphores sportives. et la boxe. Alors là, on voit que... J'imaginais en vous voyant la première fois que vous auriez le nez cassé, mais ce n'est pas le cas, que vous puissiez être boxeur. Et vous en parlez de façon assez étonnante de la boxe, même si presque, on aurait presque envie qu'il y ait une vraie scène qui n'arrive pas, une scène de combat, qui aurait été un hommage à Norman Mailer, pour le coup, qui est un grand écrivain de la boxe. Mais alors, vous avez des liens, des phrases comme « écrire, c'est comme boxer, c'est comme courir », puis ça revient... écrire, il faut avoir la rage de vaincre. Écrire ou boxer, c'est tellement proche. Enfin, ça revient très souvent. Vous parlez de bataille. Vous avez un langage très guerrier, somme toute, pour la littérature. Alors je vous précise une chose. Vous dites même, d'ailleurs, je crois même plutôt au début ou à la fin, qu'un deuxième chapitre, ça doit être comme un coup de poing dans la mâchoire du lecteur. Est-ce que vous avez réalisé, en disant ça, que 80% des lecteurs étaient des femmes et qu'il ne fallait pas taper les femmes de façon aussi violente? Ou est-ce que... pour vous, un lecteur, c'est un être indéterminé qu'il faut prendre par le col et remuer.
Non, mais alors je précise juste que quand il dit c'est un coup de poing, il précise que donc il lui fait un parallèle entre la boxe et la composition de son livre, et il lui dit en boxe, tu commences par donner un premier coup par le bras le plus faible. Donc si vous êtes droitier, ce sera le bras gauche qui va donner un premier coup, qui va être censé déjà assommer, mais pas trop, parce qu'évidemment, ce n'est pas le plus fort, votre lecteur et votre adversaire. Puis ensuite, directement après, pendant qu'il est un petit peu sonné, vous arrivez avec le bras le plus fort, et c'est la garantie de lui mettre un bon coup. Et il y avait l'idée, donc, non pas de frapper, donc frapper un grand coup dans votre adversaire à la boxe, oui, mais là, de frapper un grand coup pour votre lecteur et de lui donner envie de rester et de lui de dire... j'ai gardé ce livre et je veux le garder.
Vous êtes dans une vision vraiment dynamique de l'écriture, de la littérature.
Mais je pense que ouais. Oui, non, parce qu'en fait, je suis un lecteur qui m'ennuie vite, pas très patient, très exigeant. Et c'est vrai qu'assez vite, il y a tellement de livres. Il y a tellement de livres, on reçoit des livres, on envoie, celui-là, il m'intéresse, celui-là, il m'intéresse. On se retrouve tous avec des piles de livres dont on ne sait jamais très bien quel ordre suivre pour les lire. Et c'est vrai, en tout cas, moi, quand je commence un livre... Il y en a tellement d'autres que j'ai envie de commencer en même temps que si je n'ai pas accroché tout de suite, je me dis bon, ce sera pour une autre fois et je le pose et j'en prends un autre.
Mais c'est un rapport intéressant parce que vous dites qu'un livre doit nécessairement être quelque chose d'accrocheur. Est-ce qu'un livre ne peut pas être quelque chose qui précisément lutte contre vous? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un livre, ça c'est des théories qui courent, un livre s'affronte aussi avec vous, il ne vous donne pas toutes les clés et vous dit il faut aller un peu chercher plus loin, il faut que vous soyez exténué par un livre. Vous, c'est plutôt l'inverse.
Oui, c'est aussi une approche qui est très possible.
Vous prendre par la main, mais vous lâcher.
Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je sais que je suis un lecteur qui préfère qu'on me prenne par la main parce que ça m'incite à rester avec un livre. Et c'est vrai qu'un livre qui me donnerait pas tellement envie, surtout pour un roman, on parle vraiment là d'un roman, c'est-à-dire évidemment, quand on parle d'un livre, on peut lire des essais qui sont évidemment là, on a envie d'apprendre, donc c'est une approche qui est très différente. En tout cas, en ce qui me concerne, pour un roman, si dans les premières pages, j'ai rien compris à ce qui se passe et que ça me fatigue et qu'en plus, ça a l'air très long et ennuyeux, j'ai tendance plutôt à poser le livre et en prendre un autre.
Alors, une des grandes thématiques du livre, bien entendu, c'est l'échec. C'est-à-dire, c'est un livre qui est construit là-dessus, autour de ce Marcus Goldman qui a eu un best-seller et qui se rend compte au début du livre qu'il n'arrive plus à écrire. Donc il est dans l'échec. L'échec aussi sans doute d'Harry Quebert qui se rend compte que bien qu'il lui ait connu le succès, il échoue à quelque chose. Est-ce que, alors dites-nous quel est votre rapport à l'échec? Est-ce que somme toute c'est pas le fil rouge qui accompagne tout ce livre?
Non, c'est un fil rouge et qui là peut-être est un parallèle entre la société européenne et la société américaine. Les Américains, ou plutôt commençons par les Européens. Les Européens en tout cas ont très peur de l'échec. Si on connaît un échec, c'est la déprime. Les gens prennent des airs contrits et ils sont très inquiets. Et puis, en principe, on arrête tout. Et puis, on regrette beaucoup, beaucoup. Et puis, on ne reprend plus jamais. Alors, celui qui a voulu être indépendant en créant son entreprise et qui a connu un échec va retourner dans le monde du travail en tant qu'employé. Et il en aura profondément honte. Et puis, il y a comme ça un rapport assez étrange avec ça. Les Américains, ils considèrent que tant que vous n'avez pas connu, en tout cas, 4 ou 5 fois un bon échec, vous ne pouvez pas réussir. Et il y a une procédure de l'apprentissage qui passe par l'échec. Et je trouve que cette approche de la vie est beaucoup plus juste. Et je trouve qu'on devrait nous l'enseigner plus.
C'est une éthique samouraï, presque. Hein, tomber 7 fois, se relever 8.
À peu près. Mais c'est vrai, parce qu'au fond, ce n'est pas très grave de tomber. C'est... au contraire, ce qui permet de mieux nous former, de mieux apprendre, de mieux nous connaître, nous. Et si on avait moins peur de l'échec, je pense qu'on oserait plus.
Vous dites que le plus important, c'est de savoir tomber.
Oui. Oui, parce que arriver à ses fins, au fond, c'est très annexe. C'est important ou pas, c'est agréable ou pas. Mais en tout cas, le plus important, et j'y crois vraiment, et c'est ce qui se passe aussi dans ce livre, le plus important, c'est pas la finalité, mais c'est l'intensité qu'on aura mis pour atteindre son but. Une fois que le but est atteint, il est atteint. Il n'y a pas grand-chose. Mais le plus stimulant, c'est tout ce qui s'est passé pour atteindre ça. Toute l'énergie, elle vient avant le but. Et au fond, c'est ça la période la plus importante. Donc, ce n'est pas très grave si on tombe, si on a un échec, si on n'arrive pas exactement au but qu'on s'était fixé. Parce que tout le gain qu'on aura de ça, il vient avant ça.
Alors, le problème qu'il y a avec votre livre, c'est qu'il y a toujours des sujets qu'on voudrait aborder, mais on a peur de dévoiler l'intrigue. Enfin, c'est vraiment le danger. Là, j'ai essayé de m'entraîner à résumer le truc. Je n'ai pas réussi parce qu'à un moment ou un autre, on risque de trahir. Alors, moi, j'aimerais vous parler un peu des pièges qu'il peut y avoir dans votre livre et ce que vous avez pu rencontrer. J'ai eu le sentiment, moi, qu'il y avait quand même... On avait affaire, c'était peut-être sur votre côté jeune auteur, à un sentimental, qu'il y avait un peu de sentimentalisme chez vous.
Oui, il y en a beaucoup.
Et que c'est un livre d'amoureux, et que le personnage principal, qui est Nola, qui est un personnage somme toute qu'on entend très peu, enfin ce qu'on sait d'elle, c'est ce que les autres nous en disent. Il y aura jamais de... On aura un bout de ses lettres, mais on ne sait jamais vraiment qui elle est. Mm-hmm. Et qu'il y a une sorte de fascination pour votre personnage, cette sorte de mystère, et que ce qu'elle crée autour d'elle, comme... elle crée de l'amour, et que vous êtes un peu tombé amoureux de votre personnage. Est-ce que je me trompe? C'était une jeune fille merveilleuse, dites-vous, et puis ça revient régulièrement. Est-ce qu'il n'y a pas un petit péché de sentimentalisme?
Oui, probablement, mais je suis très romantique comme ça, donc j'ai pas envie de le dire. J'ai l'impression qu'on tombe aussi un peu amoureux de tous ces personnages, parce qu'on a une relation très forte avec eux, qui est un amour comme ça, filial, puisqu'au fond, on les crée, on les tue, on ne les tue pas. Mais en tout cas, à un moment donné...
Enfin, vous les sauvez, vous, beaucoup.
Moi, je les sauve pas mal, mais il y a quand même un moment donné où tout s'arrête pour eux, puisque le livre se termine. Et donc, c'est-à-dire que tant qu'on écrit son livre, ben, on a la garantie de continuer cette relation, un peu comme des enfants qu'on enfermerait chez soi pour être sûr qu'ils ne partent jamais. Mais à un moment donné, le livre se termine et le livre s'en va pour de bon. Et il existe ensuite sous une forme qui est celle-là, mais qui n'est plus vraiment la nôtre parce que les personnages ne nous appartiennent plus. Donc il y a...
Alors pourquoi, par exemple, alors je ne sais pas si vous êtes calviniste ou quoi que ce soit, pas, après, dès qu'on tient un jeune voix, on se dit, tiens, un calviniste. Mais, par exemple, il n'y a quasiment pas de sexualité dans ce livre. C'est-à-dire que c'est basé autour d'une histoire d'amour, un fait divers assez terrible, qui mêle des choses qui sont très, très intimes. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la passion. Et pourtant, le livre... 650 pages, il faut le faire, hein, est quasiment dénué de scènes d'amour. Il n'y a pas de scènes d'amour. Mmh. Est-ce que ça, vous en êtes rendu compte après, ou est-ce que c'est votre puritanisme
Non, c'est pas...
Je plaisante.
Hein.
Mais qui fait très américain, d'ailleurs, qui est que désormais, quand vous avez un roman français, quel qu'il soit, ou un film, on ne peut pas s'empêcher d'avoir la scène de sexe, comme si c'était dans le cahier des charges. Il n'y a pas ça chez vous du tout. Il y a deux fois le mot fellation, j'ai noté, et on a l'impression que c'est vraiment, on est dans un extrême. Comment vous l'expliquez, ça?
Mais parce que les scènes de sexe, c'est très facile, au fond. C'est pas très difficile de faire une scène de sexe, parce que rien que quand je dis le mot sexe, on a tous déjà l'idée des tas de choses.
Mais l'adolescente, elle a 15 ans, quand même.
Oui, non, tout à fait. Pour répondre à votre question, il y avait la crainte de tomber dans des choses trop faciles, dans des considérations qui seraient, au fond, trop faciles. Et il y avait quand même un défi à écrire ce livre sans parler de tout ça. Parce que quand c'est l'histoire, donc à un moment donné, il y a une relation entre une jeune fille de 15 ans et un homme qui en a 34. Et je me suis dit, j'avais l'impression, peut-être à tort, mais que c'était tellement facile de tomber dans des scènes de sexe pour donner un peu de graveleux, un peu de croustillant, un peu envie de tourner les pages, que j'avais envie de ne rien mettre de ça et de ne mettre de sexe, et vous le dites, que ce qui était vraiment indispensable au livre, et de ne pas en mettre si j'avais l'impression que ça n'apportait rien. Et je ne crois pas que ce livre aurait été grandi...
Il n'y en a pas besoin, en fait. Vous êtes en train de dire,
je crois. Je ne crois pas que si j'avais eu le sentiment indispensable, ou que si j'avais eu l'impression que les scènes de sexe, que des scènes de sexe amenaient un plus au livre, j'en aurais évidemment mis. Mais à chaque fois que j'y ai songé, je me suis dit, mais au fond, ça apporte quoi? Ça n'apporterait qu'un côté voyeur ou un côté on met du sexe pour en mettre parce que c'est à la mode, etc.
Mais en même temps, on voit bien, il y a une partie Excusez-moi, non, vous me dites si je me trompe, mais on a le sentiment que c'est une belle référence à DSK, par exemple. La partie où l'avocat va réussir à retourner l'affaire en faisant passer Eric Hubert pour une victime, on a le sentiment que vous avez analysé en 2-3 pages ce qui s'est passé dans le procès, dans le non-procès DSK, qui est comment faire passer un coupable pour une victime.
Oui, alors, non, c'est...
Mais
c'est
en même temps, c'est inscrit derrière, vraiment, ici, il y a quelque chose derrière de trouble, mais qu'on
ne
dit pas.
Non, mais alors, c'est pas le cas. Alors, c'est intéressant, parce que ce qui m'a donné l'idée, et qui s'est passé plus ou moins pendant l'affaire, mais dont peu de gens ont entendu parler en France, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu toute une affaire, pendant DSK, je pense, plus ou moins, où de toute façon, ce livre était déjà en bonne route. Il y a eu une affaire à propos d'une jeune fille aussi qui a été violée, etc., par des gens. Et il y a eu toute une affaire qui a été déclenchée par rapport à ce fait divers parce qu'on a réappliqué pour la première fois de façon très stricte une norme dans le droit américain qui est de créer une protection pour les victimes qui s'appelle the rape shield, le bouclier pour les viols, parce qu'on avait vu que les avocats américains, de plus en plus, arrivaient à convaincre les jurys qu'au fond, vous comprenez, c'était cette jeune fille qui était une petite salope et qui voulait ça, c'est pas eux, n'importe qui, vous-même, avec les signaux qu'elle vous envoyait, vous auriez pu penser que si et ça, et en fait, tout d'un coup, c'est facile, après coup, de dire ils m'ont violé, etc. Et les avocats américains ont fait ça de manière tellement brutale et tellement horrible que la justice américaine a eu un sursaut de bon sens et a instauré cette loi qui est le bouclier de protection pour les victimes qui empêche les avocats de victimiser les agresseurs. Mais ça a donné lieu à des trucs terribles, évidemment, parce qu'en plus souvent, les victimes de viol sont dans des états de nerfs très importants. Elles sont ensuite confrontées à leurs agresseurs, ce qui les remet en plus complètement dans le processus de ce qui s'est passé pour elles. Et les avocats les pointaient du doigt, elles me demandaient, mais regardez, cette jeune fille qui est complètement hystérique, qui pleure, qui se lève, qui s'en va, évidemment. Alors, vous voyez, c'est pas une personne stable, tout ça. Donc, c'était absolument terrible. Donc, les Américains ont essayé de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça avec ce dogme. Et moi, c'est un dogme, c'est ça qui m'a donné. Je me dis, mais c'est assez fou, au fond. C'est assez fou qu'on en arrive là. Et il y a des histoires. Si vous voulez avoir des histoires complètement folles, vous prenez quelques affaires, quelques procès, etc. Moi, j'ai des histoires qui me sont arrivées avec mes frères et sœurs aux États-Unis, quand l'un ou l'autre de nous se faisait mal parce qu'on jouait aux arbres ou qu'on sautait dans les rochers, bref, qu'on s'écorchait, qu'on avait besoin de faire un séjour dans les urgences d'un petit hôpital de province du Maine, il y a des avocats qui traînent et qui viennent voir qu'est-ce qui s'est passé. On vous a écrasé en voiture, on va faire un procès. Vous ne me payez pas, mais je prends le 10% des dommages et intérêts que vous pourriez toucher, etc. Donc il y a comme ça une culture très spectaculaire dans le vrai sens du terme, du droit. Et j'avais envie de parler de ça.
Que vous avez utilisé d'ailleurs dans des scènes assez drôles ou assez troubles. Alors, un autre aspect, c'est vous jouez beaucoup, et vous l'avez fait en choisissant cette couverture d'ailleurs avec un hopper, sur des visions un peu clichés, presque des chromos de l'Amérique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois que l'Amérique vous présentez renvoie une sorte d'idéal qui serait le vôtre, qui est finalement la belle vie, c'est cette vie sur la côte, je vais juste vous lire un petit passage où j'ai le sentiment que tout d'un coup, vous avez rattrapé votre passion pour l'Amérique. Mmh. Le jour tombé, la nuit promettait d'être douce et belle. Le genre de soirée d'été qu'il fallait magnifier avec des amis, en mettant des énormes steaks sur le grill tout en sirotant de la bière. Je n'avais pas les amis, mais je pensais avoir les steaks et la bière. Là, c'est le côté humour. Oui. J'allais ouvrir le frigo, mais le frigo était vide. J'avais oublié de faire les courses. Je m'étais oublié moi-même. Je réalisais que j'avais le frigo de Harry, un frigo d'homme seul. Je commandais une pizza que je mangeais sur la terrasse. Au moins, j'avais déjà la terrasse et l'océan. Il ne manquait plus qu'un barbecue, des amis, une petite copine pour que ce fût la soirée parfaite. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une imagerie quand même derrière qui est que, somme toute, les personnages sont tous en quête d'une sorte de vie parfaite.
Mais c'est vrai, c'est que ce que vous dites. Il y a probablement là, je pêche un peu par mon plaisir ou par les souvenirs que j'ai de ces moments spéciaux qui me lient aux États-Unis et qui sont aussi des moments très, très loin du monde, au fond. Et on a une scène un peu là qui se passe très loin du monde parce qu'on ne parle qu'au fond d'une, terrasse et d'un moment assez calme et simple avec des gens simples, quelques amis avec des valeurs comme ça, tellement terre à terre au fond, tellement simple. Et c'est vrai que c'est peut-être le sentiment qu'ont pu me procurer ou que peut me procurer cette région de l'Amérique du Nord que je connais au fond que comme un visiteur, même si je la connais bien, que comme un visiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est là dans un moment où il est hors de son propre temps, puisque mon temps à moi se déroule à 99% à Genève. Donc peut-être que là, je pêche un petit peu, c'est vrai.
Avec plaisir, c'est vrai.
Par l'amour que j'ai pour cette région.
Bon, j'ai des tas de questions à vous poser, mais bon, on va peut-être ralentir. Juste une chose, il y a un passage très intéressant qui doit être très propre à votre personnalité, je pense, d'écrivain en construction, qui est le passage sur le contrôle de son livre. Et vous dites, alors, parce que ce qui est intéressant dans ce livre aussi, et qui est passionnant quand on est un gros lecteur, c'est de voir le rapport qu'un écrivain peut avoir avec sa créature, son objet qui est le livre dont il va être dépossédé. Et vous dites à un moment, alors vous allez me dire si c'est juste le personnage qui est comme ça ou pas, mais publier, cela signifie que ce que vous avez écrit si solitairement vous échappe soudain des mains et s'en va disparaître de l'espace, s'en va disparaître dans l'espace public. Perdre le contrôle de son propre livre, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est l'expression d'une angoisse qui est on écrit un livre et somme toute il vous échappe? Est-ce que ce livre est en train de vous échapper? C'était pour terminer. Et est-ce qu'en même temps, vous n'avez pas le sentiment, moi j'en suis persuadé, que les grands livres, les livres importants, sont ceux dans lesquels on va trouver des choses que l'auteur lui-même ne pensait pas avoir mis?
Non, je pense que c'est une phrase qui me vient, ou c'est une prise de conscience qui me vient avec mon premier livre. Et c'est vrai que c'est une expérience humaine assez forte lorsque vous avez écrit un texte qui, en plus, est resté vôtre ensuite 2 ans et demi après que vous l'ayez terminé, qui tout d'un coup est lu par des gens que vous ne connaissez pas, qui vous donne des retours, qui le critique en bien ou en mal, qui ont un avis. Et au fond, vous perdez un peu le contrôle de ça. Vous ne pouvez même pas expliquer vraiment votre texte, parce que parfois, les gens donnent un avis, émettent un avis, ou un journaliste écrit une critique, ou il émet des idées sur ce texte qui sont complètement, en tout cas selon vous, complètement fausses, ou il a une vision du texte qui n'est pas du tout la vôtre. En même temps, vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez pas aller chez tous les abonnés du journal et dire « Excusez-moi, si par hasard vous avez lu la page 3, l'article de machin, c'est pas du tout ça, je voulais dire, etc. » Donc là, j'ai l'opportunité d'être avec vous et donc d'avoir, entre guillemets, un droit de réponse où je peux corriger le tir ou expliquer
Est-ce que justement, c'est pas ça? Est-ce qu'un livre, justement, est à lui seul une réponse et ne doit pas échapper à son auteur?
Non, mais pas du tout. Il échappe et c'est très bien comme ça. Mais c'est justement le but d'un livre, c'est que chacun, après, vit le livre comme il veut le vivre. À les plaisirs, voilà, il y a des parties que certains aiment, que d'autres n'aiment pas, enfin, chacun se crée son propre livre. J'ai écrit un livre parce que ça me plaisait de l'écrire comme ça, et puis il y a des parties qui plairont à d'autres, ou les gens le verront d'une autre façon, enfin, le livre n'est plus du tout à nous, dès le moment où c'est quelque chose qui est complètement flou, parce que c'est un livre, on décrit des choses de façon très simple, mais cette ville, peut-être des gens la verront comme ci, d'autres la verront comme ça, et c'est très bien, c'est le but du livre. Mais c'est vrai, en tant qu'écrivain, ça nous fait toujours peur. Alors voilà, par exemple, quand je ne mets pas de scène de sexe parce qu'au fond, je trouvais que ce n'était pas utile, ça n'apportait rien au livre, on pourrait se faire dire « mais c'est Dicker, le calviniste, il est puritain, c'est étrange, quel étrange type, etc. » Et c'est vrai que ce sont des moments, au fond, où chacun est libre de penser ce qu'il veut du livre et de celui qui a écrit le livre. Il y a même des gens qui nous déplaisent profondément, des auteurs qu'on ne connaît pas, mais on a des idées reçues sur eux, puis on dit « Ah, machin, en fait, c'est un con, je ne l'aime pas du tout, etc. » parce qu'il nous énerve, parce qu'on l'a vu une fois, etc. Donc, c'est vrai qu'on appartient ensuite, au fond, à l'imaginaire de ceux qui nous lisent, mais en même temps, c'est un grand plaisir d'appartenir à des imaginaires, parce que ça veut dire qu'on a la chance d'être lu, et c'est très important. Parce qu'au fond, j'ai mis un peu de dire « oui, mais le texte nous échappe, c'est terrible, vous comprenez ?» Mais au fond, c'est formidable, parce que ça veut dire qu'on a la chance rare sur tous les titres qui sortent, sur tous les gens qui écrivent, et combien parmi ceux qui écrivent ont la chance d'avoir leur livre qui sort et qui existe en tant que livre. On a la chance d'avoir un livre qui peut être lu et d'avoir des gens qui nous lisent. Donc on a envie de dire « mais échappe-toi loin !»
Bon, j'ai encore plein de questions à vous poser, mais je les poserai après, parce que c'est un livre qui est très riche, qui est très dense. On a l'impression de voir... Alors, qui représente un vrai danger aussi. Ça, je me demande si vous l'avez, on va terminer là-dessus, si vous y avez pensé, ce côté page-turner du livre, hein, ce côté tourne-page, est-ce que vous n'avez pas craint que finalement on lise votre livre trop vite?
Non,
c'est-à-dire qu'en se disant qu'on veut tellement avancer,
ah non, mais
qu'on va louper des choses.
Mais c'est une question que je réponds souvent de la même façon, parce que je n'ai pas d'autre réponse que ça. C'était vraiment le contraire. On a toujours peur, surtout quand on écrit un livre qui fait 660 pages, de se dire, mais les gens ne vont pas aimer, les gens en ont marre, ils vont lire 100 pages, 10 pages, ils en auront marre, ou 100 pages, ils en auront marre, etc. Donc il y a la peur du début à la fin, que les gens s'ennuient, ou pour une raison ou une autre, n'aient pas envie d'aller plus loin. Et ça revient à la question, quand vous me dites ça, quand vous me dites c'est un page-turner, on a envie de savoir, on se dit, mais qu'est-ce qui fait que c'est ça? Et j'ai aucune idée, j'adorerais savoir, parce que je pourrais refaire le même, etc., ça serait très bien, je serais très content, mais j'ai aucune idée. J'ai pas la moindre idée de ce qui fait qu'on a du plaisir à lire un livre plutôt qu'un autre, qu'on a envie de tourner les pages d'un livre plutôt qu'un autre. Et je raconte toujours, et je vous le cite aussi, si vous voulez le lire, c'est un très bon livre, La potion magique de Georges Bouillon de Roald Dahl, qui est l'histoire d'un enfant qui fait une potion, qui a des pouvoirs, etc. Bref, mais qui, à la fin du livre, son père lui demande de refaire la même, et il se rappelle absolument plus de ce qu'il... Il sait ce qu'il a mis dedans, il sait qu'il a mis un peu de ci, un peu de ça, un peu de cette chose-là, mais il ne sait plus exactement ni à quel moment, ni combien, et donc il n'arrive plus à faire ça. Et donc je ne sais pas comment...
Vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre potion.
Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre potion. Je ne sais pas ce qui fait qu'on a envie de lire un livre plutôt qu'un autre, je ne sais pas ce qui fait qu'on a envie de tourner une page plutôt qu'un autre.
Je merci remercie beaucoup, donc beaucoup cas, Joël Liker d'avoir répondu à ces questions avec beaucoup de franchise et surtout de foi. Pour beaucoup, c'est très agréable d'avoir un écrivain qui n'a pas une once de cynisme, et c'est très agréable. Et j'invite donc tout le monde à lire La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est un sacré roman français. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.